franceinter.fr.
Bonjour Aurélie Filippetti.
Bonjour.
Ancienne ministre de la Culture, députée socialiste de la Moselle. Allez-vous voter la loi Macron qui arrive demain en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, si toutefois le gouvernement vous laisse la possibilité de vous prononcer?
D'abord, c'est une bonne question. Il faudra qu'on ait la possibilité de se prononcer. On ne l'avait pas eu en première lecture.
À cause du 49-3 que le gouvernement pourrait à nouveau utiliser en deuxième lecture.
Oui, c'est ce qui semble se dessiner parce que le gouvernement n'a pas de majorité sur ce texte. Et visiblement, après le passage au Sénat qui avait encore renforcé, aggravé tous les problèmes sociaux posés par ce texte, eh bien, le travail en commission spéciale à l'Assemblée nationale n'a pas permis de rétablir un équilibre qui soit satisfaisant.
Vous êtes en opposition à la loi Macron, Aurélie Filippetti?
Écoutez, il y a encore eu des choses nouvelles, des annonces nouvelles. Par exemple, la limitation, le plafonnement des indemnités versées aux salariés qui sont licenciés de manière abusive et dont les employeurs sont donc condamnés par les prud'hommes. Ce plafonnement, pour moi, il n'a aucun sens. Il faut faire confiance à la justice prud'homale. On remplace ce qui était au départ un plancher d'indemnisation, en fait, par un plafond. Donc on voit bien que les salariés vont se retrouver totalement lésés dans des situations extrêmement difficiles, surtout évidemment pour les salariés des petites entreprises. Mais il faut bien savoir que des entreprises de moins de 20 salariés ou de moins de 300 salariés, ce ne sont pas forcément seulement des petites entreprises indépendantes. Ça peut être des filiales de très grandes entreprises qui s'organisent ainsi en petites unités, en petites entités, pour justement échapper à un certain nombre de réglementations qui protègent les salariés. Donc c'est dangereux pour les salariés.
C'est le signe de quoi, à vos yeux, Aurélie Filippetti, la dérive néolibérale ou social-libérale du gouvernement qui continue?
Je ne sais pas si c'est une dérive. En tout cas, ce que je constate, c'est que en matière économique, le gouvernement essaye un petit peu de partir dans tous les sens, malheureusement plutôt dans un sens, oui, plutôt libéral. Et malheureusement, on pourrait se dire, bah, après tout, si ça marche, tant mieux. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Il y a 2 semaines, on a eu les derniers chiffres du chômage. Le chômage, depuis 3 ans, il a augmenté de 21%. En France. Donc on est revenu à un nombre de chômeurs tout à fait inédit. On n'a jamais connu ça depuis quasiment 1997.
Vous pensez, vous aussi, de chômeurs, que nous marchons droit vers le désastre, comme l'a dit Arnaud Montebourg dans une tribune?
En tout cas, ce que je constate, c'est que le problème principal de la France, c'est l'emploi, c'est le chômage. Et que face à ce problème-là, les solutions qui sont mises en œuvre, et notamment dans la loi Macron, ne sont pas à la hauteur. Cette loi ne va rien régler. Ce n'est pas en disant que on sécurise les indemnités que les employeurs doivent verser aux salariés. Je vois pas en quoi ça permet de créer des emplois et ça stimule l'embauche. La question du crédit d'impôt compétitivité emploi, par exemple, qui coûte 40 milliards d'euros. On a donné 40 milliards d'euros, 41 milliards d'euros aux entreprises au nom de cette fameuse compétitivité, au nom de la nécessité de les aider pour qu'elles recréent de l'emploi. Ce que j'ai vu dans ma circonscription, par exemple, et tout récemment, là, le mois dernier, c'est que 2 très grandes entreprises françaises ferment des unités dans ma circonscription, alors que ce sont des entreprises qui se portent bien, qui ont touché plusieurs millions d'euros en crédit d'impôt compétitivité emploi, et qu'elles vont malgré tout délocaliser vers les pays de l'Est de l'Europe certaines de leurs activités.
Autre chose, Aurélie Filippetti, le milieu de la culture se mobilise pour soutenir Agnès Salle, l'ex-présidente de l'INA, poussée à la démission pour ses dépenses de taxi. 183 signataires viennent d'adresser une lettre à votre successeur, Fleur Pellerin, pour dénoncer une campagne de presse présentant le caractère d'un lynchage et souligner les compétences d'Agnès Salle, son sens de l'État, etc. Vous avez nommé Agnès Salle à la tête de l'INA. Elle est présentée comme l'une de vos proches. Elle a été victime d'un lynchage.
Elle a fait une faute. Agnès Salle a fait une faute qui est très grave dans une période où tout le monde, et en particulier les gens qui ont de hautes responsabilités dans l'administration, tout le monde, les hommes politiques, les femmes politiques, on doit tous être exemplaires. Le Premier ministre en a fait l'exemple avec le déplacement à Berlin. Il a reconnu qu'il avait fait
contre-exemple,
il a reconnu qu'il avait fait lui aussi une faute.
Oui.
Agnès Salle a fait une faute, c'est normal qu'elle soit sanctionnée.
Manuel Valls il est toujours en poste, lui.
Mais en tout cas,
il a
reconnu sa faute. Non, ce que je mets sur le même plan, c'est la nécessité d'être exemplaire. Et malheureusement, je le regrette parce que Agnès Salle était peut-être l'une des dernières personnes dont on aurait pu penser qu'elle commettrait ce genre de faute. Mais malheureusement, elle l'a fait. Il y a des enquêtes maintenant en cours et voilà, elle doit effectivement être sanctionnée pour cette faute.
Donc elle a mérité le traitement qu'elle a subi.
Après, que des personnes qui ont travaillé avec elle témoignent de la qualité de son travail, la qualité de son application. Je vous le dis, moi, quand j'ai proposé sa nomination au président de la République, c'était après l'audition. Je crois qu'il y avait une dizaine de candidats qui étaient tous de grande valeur. Elle avait à la fois le parcours le plus solide et aussi le projet, sans doute le plus fort pour l'INA. Donc vraiment, c'était absolument inenvisageable. Ce n'est pas une personnalité bling-bling. Donc c'est bien que des gens qui ont travaillé avec elle témoignent en sa faveur pour éviter tout lynchage. Et en même temps, elle a commis une faute.
Elle n'a pas été victime de la rivalité qui vous oppose à Fleur Pellerin, comme ça a pu être écrit à ce moment-là.
Vous savez, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été écrites sur ce sujet. Malheureusement, on aime bien le sexisme en politique. Ça retombe aussi sur des sujets comme ça. On aime bien faire des oppositions entre des femmes qui du même âge, voilà, les mettre en rivalité. C'est un thème classique de la littérature, malheureusement, c'est pas que dans la littérature.
Rapporté sur votre supposée rivalité avec Fleur Pellerin, c'était du sexisme.
La manière dont ces choses ont été écrites, racontées, mises en scène, etc. C'est du sexisme, bien sûr.
Gérard Depardieu sera notre invité tout à l'heure à 8h20 sur Inter. À vos yeux, Aurélie Filippetti. Gérard Depardieu, c'est un grand acteur et un grand français.
C'est pas forcément. Les deux sont pas forcément indissociables. Il y a des grands acteurs qui ne sont pas français. En tout cas, Gérard Depardieu, c'est un très grand acteur français. Et je n'ai pas encore vu Valley of Love, mais je vais aller le voir mercredi à la sortie. Je crois que c'est un très grand film. Et je suis heureuse que Gérard Depardieu revienne dans ce dans quoi il excelle finalement, c'est-à-dire le cinéma, le jeu d'acteur.
Ma question, vous l'avez comprise, est-ce qu'il participe de la fierté française qu'on peut éprouver à l'égard
sur les écrans, oui.
De nos grands hommes. Sur nos écrans, oui. Au moment où il voulait rendre son passeport français, vous l'aviez fustigé avec des mots très durs, vous l'aviez accusé de déserté. Hein.
Je ne sais pas exactement ce mot.
Déserté.
Enfin, en tout cas, lui aussi, ces grands acteurs qui sont des figures majeures pour un pays, qui représentent la France à l'étranger, ils ont aussi, en quelque sorte, un devoir d'exemplarité. On doit tous finalement avoir une exigence vis-à-vis de nous-mêmes puis vis-à-vis de notre pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation très dure en France aujourd'hui, sociale, économique. Ils ont besoin de pouvoir se raccrocher à un certain nombre de valeurs comme ça. Et voilà, l'art, la culture, ça fait partie de ce qui nous tire vers le haut.
Merci Aurélie Filippetti d'être venue ce matin au micro de France Inter. Il est 8h04.